Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Ah mon Dieu, quelle fanfare!
Bonjour et bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Salut, ici Tristan Brunet-Dupont et Jason Lévesque. Salut,
oui,
Jason.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va bien toi?
Ben oui, ça va très bien.
Excellent, on est rendu avec de la belle chaleur. Ça fait du bien.
Ben nous autres, c'est juste parfait, hein, parce que là, le soleil commence à descendre à l'heure qu'on enregistre. Fait que dans à peu près une heure, on va tomber à 10-12 degrés à peu près. Ça va être idéal pour dormir. Ben oui. Et là, on fait des jaloux partout sur la planète qui sont en pleine canicule actuellement.
Merci pour vos commentaires de notre dernier épisode. Merci de partager, de réagir. On vous lit avec attention.
Absolument. Et beaucoup de suggestions. On a beaucoup de gens qui font des propositions de sujets. Continuez de le faire. On peut pas toujours toutes les faire parce que bon, on a déjà une série là, qui est entamée, mais on les garde en note. Puis éventuellement, on va arriver à refaire une liste et on va les prendre, ces sujets-là.
Exactement. Peut-être un petit mot, Jason, avant de débuter l'épisode. J'ai fait une publication d'une vidéo d'une créature du zoo. Je sais pas si tu l'as vu.
Oui, j'ai vu la vidéo. J'ai vu les commentaires aussi. Il y en a qui disent « Ah, ça semble faux », d'autres qui semblent dire que « peut-être que... » Ben, c'est ça, ça reste un débat là, assez, encore une fois, là... Il y a toujours des opinions qui vont être contraires dans ce genre de situation-là. Je te dirais, j'ai pas vraiment d'opinion sur la production de la vidéo comme telle, mais à la première écoute, après quand on le réécoute, bon, on peut commencer à voir certaines failles, mais à la première écoute, c'est assez impressionnant.
Oui, avoue, hein. Et c'est exactement, tu sais, on a vu le commentaire de... Je ne me rappelle plus de son nom, mais merci de votre commentaire. Vous avez écrit là que le réalisateur de la vidéo, c'est un cinéaste.
Oui.
Je ne savais pas ça. Et on peut voir, bon, que là, on doute que ça serait peut-être un montage. Là, j'ai fait une petite recherche sur le web. Je voulais quand même apporter un petit point. Qu'il y a des informations qui disent que la vidéo est sortie et le zoo a fermé.
Aha.
Et il a réouvert quelques années plus tard.
Aha.
Et bon, les gens pensent que ça serait la vidéo qui aurait causé une controverse dans la région.
Oui.
Et trouver la réponse, là, bien difficile, parce qu'il y a encore beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires.
Oui.
Et il n'y a pas de réponse.
Ça débat encore au sujet de cette vidéo-là. Et moi aussi, là, j'ai vite regardé qu'est-ce qu'on en disait. Il y a beaucoup de gens qui amènent des points là, qui ont été amenés là, par le fan là, qui a amené les points. Mais il y a d'autres personnes qui amènent d'autres points intéressants aussi. Puis je te dirais, là, c'est difficile de se faire une tête sur ce genre de vidéo-là. Éventuellement, j'imagine la vérité va sortir parce que c'est quand même assez récent. Là. C'est pas comme si ça datait de v'là 150 ans et que plus personne n'était vivant. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, on va en savoir plus. Ça me fait penser à l'autopsie d'extraterrestres qui avait été faite et qui, pendant plusieurs années, ça a été débattu. On a débattu est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et éventuellement, deux experts en effets spéciaux ont fini par sortir publiquement pour dire que c'est eux qui avaient créé la créature. Ils ont tout expliqué, ils ont montré les moules et on a vu là, que c'était réellement eux qui avaient créé un faux extraterrestre pour servir à cette vidéo-là. Le tournage aussi, là, quelques trucs dans le tournage qui ont été dévoilés au public, qui ont bel et bien montré que non, ce n'était pas une vraie autopsie d'extraterrestre. Mais pendant quelques années, le débat a été très chaud à propos de cette vidéo-là.
C'est intéressant, effectivement, c'est récent. Peut-être que le gars qui a filmé ça va peut-être sortir dans 3 ans.
Éventuellement.
Je vous ai tout eu!
C'est mon beau-frère déguisé qui crie!
Je trouvais que la créature me faisait un petit peu penser au Wendigo quand même.
C'est ça, ça a donné bien avec le dernier sujet qu'on a fait là, dans le dernier épisode. Et le fait que tu amènes cette vidéo-là de cette manière-là, Tristan, c'est le fun parce que ça va un peu dans le cadre de ce qu'on va faire aujourd'hui.
Ah oui!
La vidéo, c'est quelque chose qui est lancé, qui est ouvert au débat. Les gens amènent des points, des arguments, mais dans quelques années, cette vidéo-là va peut-être continuer à circuler et ça va peut-être devenir éventuellement ce qu'on appelle un mythe urbain ou une légende urbaine.
Okay,
et là, tu as amené l'élément en plus que le zoo a peut-être fermé après la diffusion de la vidéo. Ah, ben là, ça amène un autre saveur ou un autre élément de discussion à la situation. Et c'est comme ça qu'ils se créent, justement, les légendes urbaines et les mythes urbains. C'est comme ça que ça démarre. Et après plusieurs années, les gens vont dire... Moi, là, mon père m'a dit quand il était jeune, là, il avait une vidéo, là, ça se passe d'un zoo.
Oui.
Puis là, il y a une créature d'une cage, puis on voit pas trop bien, mais là, hey, ça fait peur. Puis ce zoo-là, là, il y il aurait fermé après.
Ah, c'est...
Et ça devient une histoire comme ça qu'on se raconte, et c'est la tradition orale, hein, on dirait, qui se perpétue de cette manière-là, mais sous forme de légende urbaine maintenant. Même plus qu'avant, c'était les nouvelles, c'était, c'était les histoires, l'histoire du monde ou l'histoire d'une civilisation se transmettait de manière orale. Là, maintenant, on a accès à tout ça là, du bout des doigts. En 30 secondes, on peut trouver l'histoire d'un pays sur Internet. Mais les légendes urbaines ont pris la place, justement, de la transmission orale d'histoire.
Ben c'est très intéressant, ça me fait... Jacob, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité quand on pense aux fausses nouvelles.
À... Ben voilà, ça aussi. Ben c'est de même, je voulais l'amener, mais ta vidéo m'a permis de l'amener autrement. Mais oui, tu amènes ce point-là, puis c'est super le fun, parce que je voulais l'amener aussi. La fameuse histoire, on va prendre Bill Gates, là. On va faire une petite parenthèse là, avec la situation actuelle, parce que bon, tout le monde la vit. Fait que si vous êtes en France, puis vous nous écoutez, vous vivez la pandémie. Si vous êtes au Danemark, puis vous nous écoutez, vous vivez la pandémie.
Ben oui,
si
exact.
Vous êtes à Sherbrooke, puis vous nous écoutez, vous vivez la pandémie. Bref, c'est mondial. La fameuse, bon, on parle beaucoup du signal 5G, qui est la nouvelle génération du signal cellulaire ultra rapide, qui permet de la transmission de données à une vitesse phénoménale. Et là, on dit que les tours 5G seraient impliquées dans tout ça, dans un immense complot, où les tours 5G vont servir à traquer les gens, à même, certains disent, contrôler leur esprit. Et pour ce faire, c'est un vaccin qui va être donné, et le vaccin pour contrer la COVID-19, va contenir des micropuces qui vont être injectées dans le corps et qui vont être sur la fréquence du signal 5G. Et que c'est Bill Gates qui aurait développé ces fameuses micropuces, le génie de l'informatique Bill Gates, qu'on aime ou non le système Windows, le gars reste un génie. Ben c'est une bolle incroyable, Bill Gates, qu'on l'aime ou non. Et on dit que c'est lui qui aurait développé ce concept-là, au début des années 2010, et que c'est déjà en branle depuis très longtemps cette pandémie-là, et que tout était prévu, et la pandémie force les gens à rester chez eux pendant qu'on fait l'installation de tours ultra secrètes, ultra perfectionnées, et qu'après, on va dire, la population mondiale est obligée de se faire vacciner pour éviter une nouvelle vague de COVID-19, et là, on va tous se faire injecter la puce.
Mais à quoi servirait cette puce?
À contrôler les gens, leur esprit, à savoir où ils sont, à leur habitude de consommation. Bref,
un
imagine
contrôle,
ce que tu veux. Imagine ce que tu veux, cette puce-là le fait.
OK, ouais, je comprends.
Et ça, cette théorie-là, c'est pas la première fois qu'elle revient.
Okay.
Elle était là au début des années 2000. En fait, quand le cellulaire est arrivé, on parlait déjà de théorie semblable à ça. Et tranquillement, c'est devenu ça aussi une légende, mais on la modifie à chaque fois. Alors là, quand le signal 4G est sorti, on a eu sensiblement le même phénomène qu'on a actuellement. Moins la pandémie, là. Évidemment, il n'y a pas eu de pandémie. Mais les gens disaient que le signal 4G allait donner le cancer, que ça allait contrôler les esprits, que c'était trop fort, qu'on allait être malade à cause de ça. Bref, on a eu un paquet de théories. Et là, ça s'est calmé quand le signal 4G s'est installé, que tout le monde utilise. Là, vous êtes entouré de ce signal-là actuellement. Et là, le signal 5G arrive, ben, c'est comme si on remettait tout ça à zéro et on repartait avec des théories farfelues. Et là, on inclut Bill Gates avec le vaccin parce qu'il y a la pandémie à peu près en même temps que l'entrée en service de ce signal-là arrive. C'est une coïncidence. Mais là, les complotistes sautent là-dessus à pieds joints, là, mais s'en font un plaisir de sauter là-dessus. Et encore là, c'est un peu le principe de la légende urbaine.
C'est ça.
Et on a cette théorie-là depuis que la technologie et les ondes nous envahissent, le plus ou moins. Puis on est dedans, on aura beau dire ce qu'on voudra, on est dedans.
On est dans la meilleure période pour les légendes urbaines.
Et oui, et là, ben, on la remet à jour et on change les acteurs, on change un petit peu des données et elle revient comme ça. Et ça devient les complots et les théories de complots, les théories de conspiration qu'on a actuellement. Grosso modo, c'est des légendes urbaines qu'on recycle en modifiant un peu tout ça pour la mettre au goût du jour.
Ah, non, c'est fou. C'est fou parce qu'avec Internet, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Moi, ce soir, je pourrais décider de partir une légende urbaine.
Tout à fait.
Je décide d'écrire de quoi sur Facebook, n'importe quoi. Là,
si ça devient viral, c'est fait.
C'est ça, exact.
C'est fait. Et dans 20 ans, on va parler de l'histoire que toi, t'avais partie. Parce qu'un soir, tu t'emmerdais à la maison, puis t'as décidé d'inventer quelque chose, puis de le mettre sur Internet.
Ah, c'est ça. On revient souvent à la crédibilité des sources. Hein. C'est la clé pour éviter de se faire prendre. Là.
Absolument. Il faut faire attention parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent et de l'information, des fois, qui provient de sources qu'on considère fiables. On prend la celui-là, je ne sais même pas dire le mot. Je l'écris, puis je ne sais même pas le prononcer. Du docteur Raoult, hein, qui était le plus grand défenseur de ça au tout début de la pandémie.
Oui.
Cet homme-là, là, c'est pas un deux de pique, là. C'est pas un scientifique boboche de fond de sous-sol.
Non, c'est vrai.
C'est un scientifique reconnu par ses pairs, qui a fait des grandes choses dans le milieu de la santé, mais là, il a pris des raccourcis incroyables. Il a fait des déclarations à l'emporte-pièce alors qu'il n'y avait aucune preuve de son produit. Il a fait perdre du temps dans la recherche d'un réel médicament. Et c'est ça qui blesse présentement, c'est qu'il est fiable, mais il a pris tellement de raccourcis et il a tellement avancé de théories sans même pouvoir les vérifier qu'il les a présentées comme des certitudes. Et là, on peut dire, bon, ben regarde, t'as dit n'importe quoi. Mais là, il a dit n'importe quoi. Et le fait qu'il ait dit n'importe quoi, avec sa réputation relativement fiable il y a quelques années, il a fait perdre du temps.
Oui, oui.
Et là, ça, c'est grave.
Oui.
Et ça, c'est dramatique. Là, on dit, non seulement t'as menti sur tes résultats, mais le fait que t'as menti sur tes résultats peut avoir mis la santé de gens et de très nombreuses personnes en danger. Et c'est là que ça devient dangereux. Quand ça verse dans... un impact réel dans le monde, quand tu, là, ça devient dangereux. Ça.
Quand tu as une crédibilité puis que tu t'en sers pour essayer de faire passer un message, une idée, un concept...
C'est un peu comme un gamble. Il a, il a pensé qu'il allait avoir le médicament et il a jeté les dés en disant « Je jette les dés en disant « J'ai la solution ». Et malheureusement, il n'y a pas eu il a pas eu des bons chiffres là, avec ces dés, là, mais vraiment pas. Il s'est retrouvé avec 2-1, les fameux snake eyes qu'on appelle quand on joue au dés. Et là, tout s'écroule pour lui. Là.
Ah, c'est
mais
ça.
Tout s'écroule là, actuellement. Au moment où on se parle, là, aujourd'hui ou hier, il y a une étude qui est sortie qui démolit absolument qu'il a dit. Là.
On est allé beaucoup trop vite pour confirmer tout ça, effectivement. Surtout en ce moment, on a la pression de la population qui dit trouvez-nous des médicaments,
justement.
Trouvez-nous de quoi.
Et tout le monde veut être le héros.
C'est ça, c'est ça.
Un peu, je pense, ce qui lui a monté à la tête, malheureusement.
Porter le chapeau du sauveur. Ça, j'avoue que c'est alléchant. Là, tu
oui, on voudrait tous un jour recevoir, arriver puis ouvrir mon frigo et dire « Oh mon Dieu, la coleslaw que j'ai oubliée il y a 3 mois, elle a le médicament à la COVID. » Mais ça marche pas de même.
Donc, c'est un très bon exemple d'une légende urbaine. Et là, tu en as trouvé plein.
Ben, on va faire le fun avec Dossier bizarre, Tristan. Oui. Ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas pris dans un carcan.
Non.
On fait un peu ce qu'on veut avec l'émission. On passe d'un sujet à l'autre. Des fois, on fait des sujets très de fond. Là. La bête du Gévaudan, par exemple, ça a été très, très, très lourd comme sujet parce qu'il y avait beaucoup de stock. D'autres fois, on y va plus léger. Les mythes d'Elvis, par exemple.
Ben,
on avait
oui.
plein d'informations. Hitler, exact. C'était à peu près la même chose. Là. On avait plein de petites informations à propos d'Adolf Hitler. Fait que ça nous permet de faire ça. J'avais fait les objets maudits aussi.
Oui,
là, les objets
souviens.
Ensorcelés ou des trucs comme ça.
Je me souviens.
Ça avait été le fun de faire ça parce que c'est rapide. C'est plein de petits sujets.
C'est ça. Il y avait eu aussi, tu sais, comme mettons, la combustion.
Combustion instantanée.
Oui, combustion instantanée.
Ouais, spontanée, pardon.
C'est ça.
Ça avait été le fun aussi parce que c'était plein de petits événements là, séparés l'un de l'autre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, Tristan, en fait, j'espère que tu es prêt parce que je vais te mettre au défi aujourd'hui.
OK, ben OK.
Fait que là, ça fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'on parle de légendes urbaines, de mythes urbains. On va t'en présenter. Je vais t'en présenter. J'ai une personnalité multiple, mais on ne le dit pas habituellement. Je vais te présenter des mythes urbains. Très rapide.
OK.
Ce ne sera pas des très longues histoires.
D'accord.
Des petites histoires courtes. Et toi, tu dois déterminer. Tu as 3 choix, en fait.
OK.
Vrai, est-ce que c'est vraiment arrivé? Faux, c'est jamais arrivé. Ou faux, mais il y a quand même une petite source réelle en arrière de l'histoire.
OK, ouais, je comprends.
Parce que il y a des gens qui vont dire, voilà, il a dit que c'était faux, ça, mais moi, je le sais, là, que c'était... Oui, parce qu'il peut avoir une source réelle qui a fait que l'histoire s'est bâtie dessus.
Je comprends, il y a beaucoup de légendes
urbaines. L'histoire reste fausse, quand même.
Qui partent des fois d'un fait qui est véridique.
Et là, on l'agrémente un petit peu.
C'est ça. Ah, ben parfait, ben je suis prêt.
Oui.
Je suis prêt.
Excellent. Fait qu'il y en a des vrais, il y en a des faux, il y en a des faux avec une source dans la réalité. Fait que je te pogne pas, là, c'est pas tout faux, puis dire, moi, l'avoir, c'est tout faux. Il va en avoir des 3.
C'est bon, je vais utiliser mon écoute active, puis au pire, j'aurai l'air un peu fou. C'est juste comme...
Ben ouais, ben c'est correct, parce qu'il y en a là-dedans qu'on va être convaincu qu'elles sont fausses, les histoires, et elles sont vraies.
Ah.
Et il y en a d'autres qui vont tellement paraître vraies, mais ils sont complètement fausses.
Ah, ben excellent.
Alors, c'est le fun pour ça. Et j'en ai une tonne, puis j'irai pas nécessairement dans un ordre précis.
Okay.
On va peut-être en avoir 8 de fausses, puis à un moment donné, 2 de vraies. J'alterne pas, j'y vais vraiment au hasard pour éviter justement qu'il y ait une tendance qui se décide.
C'est bon.
OK?
Excellent.
On y va avec la première.
Parfait.
Une histoire que moi, j'ai entendue quand j'étais jeune. Ça se passe en Californie, dans l'Ouest américain. Un feu de forêt, il y en a énormément en Californie, des feux de forêt, il y en a tous les années et il y en a des fois pendant une année complète, des feux qui sont hors de contrôle. Alors souvent, on utilise des équipements aériens pour éteindre les feux. Donc, une année, dans les années 80, feu de forêt en Californie, une fois le feu contrôlé, on retrouve au sommet d'un arbre brûlé, l'arbre est brûlé, mais au sommet de l'arbre, on trouve un homme avec un scaphandrier, ou en fait là, un wetsuit, des bonbonnes, un masque de plongée. Et il est au sommet de l'arbre. Il est mort, évidemment. Et il est calciné avec l'arbre. Comment l'homme a-t-il pu se rendre au sommet de l'arbre comme ça? En plein feu de forêt, Tristan! Ben,
est-ce que c'était près de l'eau? Y avait-il de l'eau près?
Voilà. Donc, on se retrouve avec une histoire qui, quand on détaille l'histoire, l'homme est allé faire de la plongée. Sa femme est sur la plage. Et là, elle se prélasse, elle se fait griller pendant que lui fait de la plongée. À un moment donné, une série d'hélicoptères arrive avec... En Californie, on utilise des espèces d'immenses bacs où on récupère des milliers de litres d'eau avec les hélicoptères. On laisse descendre le bac, on remonte. Et ensuite, on va déverser ça sur les feux de forêt. Tu me vois venir.
Oui, oui, oui.
La femme est sur la plage, elle voit les hélicoptères arriver. Et là, elle fait signe à son mari. « Hey, il y a des hélicoptères qui s'en viennent! » Lui, il n'entend pas. Et quand il lève les yeux, le bac est en train de remonter. Il est coincé dans le bac. Alors là, il est transporté par l'hélicoptère au-dessus du feu de forêt. Le bac s'ouvre et notre pauvre plongeur descend avec l'eau et se retrouve évidemment décédé. Quand il tombe, il frappe un arbre. Il reste coincé dans l'arbre, dans les branches. Et le feu faisant son effet, on retrouve le corps calciné au sommet d'un arbre avec tout son équipement de plongeur sur lui, Tristan.
Oh my God! Ben écoute...
C'est incroyable, hein?
Là, tu me poses la question si c'est vrai
absolument.
Ou pas.
Absolument! Je veux avoir ton avis sur cette histoire-là.
Ben, je trouve que, tu sais, il y a une certaine crédibilité, là, vite de même, là, ça pourrait arriver, tu sais. Mais hey, la bad luck, là! La bad
ben,
luck!
Ben, en fait, toi-même, la plongée, hein?
Oui, oui, ben c'est
est-ce
ça.
Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu penses que si un hélicoptère arrivait et que le bucket, là, la fameuse cruche qu'on remplit... se retrouvait en dessous de toi, parce qu'il faut quand même qu'elle passe sous toi pour te faire prendre.
Ben,
on n'arrête pas, on la laisse pas. Là. On est quand même en mouvement quand on remplit pour avoir le mouvement de l'eau. Mais est-ce que tu penses que tu t'en rendrais compte qu'il y a un hélicoptère au-dessus de moi ou il se passe quelque chose?
Même devant chez mes parents, il y a des hélicoptères des fois, parce qu'il y a des îles en face de chez moi. J'habite sur le bord du fleuve chez mes parents, puis il y a des îles, puis les îles brûlent souvent, c'est bien sec. Fait que les hélicoptères vont justement, j'en ai vu depuis que je suis né, là, ils vont chercher de l'eau. Puis bon. Le fait qu'il soit en plongée, quand t'es en dessous de l'eau, t'entends pas grand-chose, t'es dans ta bulle, t'es dans ton
Mais le mouvement, il doit avoir quand même un mouvement d'eau assez incroyable là, quand cruche ramasse de l'eau, ça doit créer un certain courant.
Pour vrai, je vais... étant donné que...
Je fais pas de plongée, je te pose la question parce que je le sais que t'en fais, c'est pour ça que j'ai commencé avec celle-là.
S'il y a du vent, s'il y a beaucoup de vent...
Tu le sens?
Le plongeur ne pourrait pas entendre vraiment l'hélicoptère parce qu'il pourrait penser que l'hélicoptère, c'est le vent, c'est une bourrasque de vent.
D'accord.
Le son se ressemblerait pourtant à moi. Mais s'il n'y a
le
pas de vent...
Le mouvement de l'eau?
Le mouvement de l'eau, pas tant.
Non?
Pas tant, parce que je pense que ça se fait assez vite. Je me rappelle des hélicoptères là, qui arrivaient là, devant chez mes parents.
Ça se fait très vite. 10 minutes là, à remplir. Là. On est en mouvement, puis on ramasse l'eau, en fait. Là, un peu comme si je passais ma main sur le dessus de l'eau.
C'est ça.
Pour en récolter. C'est ce qu'on fait là, avec ces hélicoptères.
Fait qu'au niveau de la vitesse dans l'eau, je pense pas qu'il y aurait le temps de réagir vraiment. Mais pour le son, un hélicoptère,
c'est quand même assez bruyant.
C'est ça. Fait que si le temps que l'hélicoptère arrive, s'il n'y a pas de vent, probablement que moi, je l'aurais entendu, là, c'est clair qu'il l'entend, puis il a le temps de sortir de l'eau, puis faire genre « Hey! » Mais même encore là, s'il fait signe à l'hélicoptère, puis il voit l'hélicoptère, là, le pilote d'hélicoptère, lui, je pense pas qu'il ait le temps. Il y a un feu qui brûle.
Non,
il n'a pas nécessairement le temps de regarder s'il va pogner un poisson. Là.
Non, absolument pas. Puis j'imagine qu'il y a pas mal de dommages qui se font là, dans la flore ou la faune sous-marine là, au moment où on récolte énormément d'eau, comme en Californie. Les feux, c'est épouvantable là, des fois.
Ben oui, c'est ça.
On va pas juste récolter de l'eau trois fois. Là. Ça se fait là, 24 heures sur 24. Mm-hmm. On n'arrête pas pendant plusieurs jours d'aller en récolter.
C'est ça.
Mais là, est-ce que c'est possible qu'un plongeur se soit retrouvé coincé?
Et je vais y aller avec, étant donné que démographiquement parlant, il y a beaucoup de monde en Californie, il y a beaucoup de feu, ça se pourrait bien qu'il y ait un plongeur qui était là, puis qu'il y en avait même plus, puis l'hélicoptère, il n'y avait pas le temps de regarder s'il y avait. Fait que je vais y aller avec vrai.
OK.
Parce qu'il n'y a pas de créature, il n'y a pas de. Je vais y aller avec vrai pour le fun, là.
Ben, je vais te dire, Tristan, malheureusement, c'est faux.
Ah, okay,
les ingénieurs ont pensé à cette possibilité-là.
Ah,
donc, c'est de la manière que y a un grillage, tout d'abord, sur la cuve qu'on remplit.
Uh-huh.
Et la cuve est faite ainsi pour que si jamais il y avait quelqu'un qui, malheureusement, se trouvait dans le chemin de la cuve, ne pourrait pas se retrouver coincé.
Ah, ouais.
Il roulerait puis se retournerait dans l'eau rapidement.
Il y a comme un grillage, là.
Oui, voilà. Donc, on a mis une espèce de grillage là, en forme de cône, plus ou moins, dépendamment des modèles, mais on s'assure toujours qu'il n'y a absolument aucune possibilité qu'une personne reste coincée et se retrouve dans cette situation-là.
Ah, okay, ouais.
Mais il y a des gens qui, à un moment donné, ont vu ça, mais ça serait drôle hein, qu'un plongeur se retrouve. Et l'histoire, il n'y a pas eu de fait ou quoi que ce soit de proche que ça arrive. C'est vraiment des gens qui ont
dit c'est une légende urbaine.
Ça serait drôle hein, que quelqu'un reste pris dedans. Puis on a créé l'histoire de toute pièce, mais de toute pièce.
C'est excellent, parce que au niveau des probabilités, j'ai pensé pendant que tu me racontais ça à quelqu'un qui se fait pogner par un éclair.
Oui.
T'sais, quelqu'un qui se fait pogner par un éclair, on le sait que t'as pas...
Tes chances sont extrêmement minces.
Mais ça arrive! Il y a quand même du monde qui se font électrocuter par des éclairs. Ben, mais je me suis dit, tant qu'à ça, ça pourrait bien arriver, tant qu'à ça. Mais non, oui. Finalement...
C'est l'ingénierie derrière la création de ces équipements-là. Il y a pensé.
C'était
on s'est assuré que non, finalement, il n'y avait pas possible.
C'est encourageant pour les plongeurs.
Ben, au moins, c'est un petit peu moins décourageant quand tu vas plonger. Tu n'as pas de chance de te faire apprendre. Mais ça reste une histoire qui est quand même le fun à raconter.
Ben oui, vraiment. J'aime ça, le concept de l'émission.
Ouais, c'est
pour
cool,
vrai.
Hein? Écoute, tu as parlé d'éclairs. Là, j'essaie de trouver. J'en ai une autre qui inclut des éclairs, justement. Attends, il faut que je la retrouve. Ça, c'est une histoire assez impressionnante, tout ça, avec des éclairs. Voilà. Ben non, c'est pas celle-là. Ah, voilà. Je l'ai. Écoute, excellent. J'en ai, je dois en avoir à peu près 5 ans. voilà, une histoire. C'est une dame qui vit avec la sclérose en plaques.
OK.
La dame elle est mariée, puis à un moment donné, son état de santé se détériore.
D'accord.
Et elle commence à avoir des douleurs, commence à avoir de la difficulté à se déplacer. Elle se retrouve éventuellement en chaise roulante. Elle n'a plus, à peu près plus là, de tonus dans ses jambes, presque plus de sensations. Et à un moment donné, elle est en chaise roulante, elle est sur le balcon, éclate un orage.
D'accord.
L'orage produit des éclairs.
Ben oui.
Et l'éclair frappe la chaise de la dame avec elle dedans. La dame se retrouve à l'hôpital avec des brûlures graves et des conséquences. Mais elle survit.
OK, elle survit, OK.
Elle survit. Et pendant l'examen, parce que on fait des examens physiques relativement fréquents pour les brûlures qu'elle a puis tout ça, le médecin pose la main sur son pied puis elle dit je sens votre main sur mon pied, puis habituellement, juste un contact comme ça, je devrais pas le sentir. Que se passe-t-il? Le médecin laisse couler ça en disant écoutez, madame, vous me voyez toucher votre pied, c'est dans votre tête. Ça. Tranquillement, pas vite, elle commence à bouger les jambes. Elle réussit à bouger ses jambes et elle réussit éventuellement à se lever. Debout, elle n'a plus besoin de sa chaise. Elle n'est pas guérie, Tristan. Parce que quelques semaines après, son état va se détériorer.
OK.
Elle va se retrouver encore en chaise roulante. Et le coup du destin, elle est en chaise roulante, sur le balcon, arrive un orage. Et une deuxième fois, un éclair frappe sa chaise. Elle se retrouve à l'hôpital encore une fois. Elle survit. Et cette fois, elle réussit à se lever et à marcher. Et son état n'est pas 100% revenu, mais elle ne retournera jamais en chaise roulante. Elle est presque guérie grâce à deux éclairs qui l'ont frappé.
C'est cool ça comme anecdote. c'est vraiment cool, mais je vais y aller avec faux cette fois parce que, comme je parlais des probabilités, je pense qu'on a une chance sur 1 million. Une fois, déjà là, c'est déjà une chance sur 1 million que tu te fasses prendre. Mais là, une deuxième fois, là je vais dire faux.
Ben, c'est vrai. C'est vraiment arrivé. Il y a une femme qui a été frappée deux fois.
Ben,
non seulement elle a été frappée deux fois, déjà là, c'est une histoire exceptionnelle, mais en plus, ça l'a atténué.
Ben, voyons donc.
C'est les impacts de sa sclérose en plaques.
J'ai l'impression que ça va être dans le même tout le long.
C'est 50 que ça, tu vas me donner. J'essaie de pas vraiment donner d'indices non plus quand je la raconte.
Mais c'est des affaires qui sont peu probables, tu sais.
Oui.
Fait que t'as le goût de répondre non à chaque fois,
c'est
mais en même temps.
Très ambigu.
C'est ça, t'as coup que c'est vrai. Ah, c'est excellent. Excellent. Je tente de continuer avec ça.
Écoute, on va en faire un autre avant la pause.
Ouais, parfait.
Après ça, on va enchaîner, là, puis on va en faire plusieurs là, dans le deuxième bloc. Mais j'en ai un autre. Celui-là, je l'aime beaucoup. Dans un petit village au Danemark, dans les années 60, à un moment donné, on répertorie la population, hein, on fait pas un sondage, là, comment on appelle ça, un recensement.
Oui, un recensement.
Et on se rend compte que pour ce petit village-là, le taux de natalité dépasse de 2 à 3 fois les autres villages du même type. Le même genre de village, même genre de population, même genre, même groupe de classe sociale, même genre de personnes, mais on a de 2 à 3 fois plus de naissances dans ce petit village-là que dans n'importe quel autre village du même type.
Okay.
Alors là, on se demande pourquoi le censeur qui dit « ça n'a pas d'allure, comment ça, qu'est-ce qui se passe ici?
Ben » oui.
Alors, il commence à explorer un petit peu la question, puis commence à essayer de voir les statistiques, les dates de naissance, puis tout ça. Et finalement, il n'arrive pas nécessairement à une solution. Alors, il commence à aller interroger les gens sur le terrain. Et les gens sur le terrain, sans s'être consultés, mais arrivent tous avec à peu près la même histoire. Et la conception de leurs enfants et le fait qu'ils conçoivent plus d'enfants est lié au train.
Au train?
Oui, le train qui passe dans le village, Tristan. Le train passe dans le village à tous les jours à 5 heures du matin. Et quand un train arrive dans une zone populeuse, il doit faire siffler son criard, oui, ou son sifflet. Alors, 5 heures du matin, tous les gens du village se réveillent. Et là, il est trop de bonheur pour se lever, il est trop tard pour se rendormir. Alors, on va se coller un petit peu, puis on va passer la dernière heure qui nous reste à se faire plaisir tout le monde. Et ça a créé un baby boom dans ce village-là à cause du train qui passait à 5 heures du matin puis qui réveillait la population entière.
Ah, ben là, écoute, ça fait du sens là, dans ma tête. Pour vrai, je trouve ça...
C'est une de mes préférées.
Ben oui, c'est clairement bon.
Fun.
Ça me fait penser un peu dans le film La Grande Séduction, ouais, avant que les pêcheurs partent à la pêche tôt le matin. Bref, écoute, je vais y aller avec vrai parce que ça fait bien du sens dans ma tête. C'est vrai, 5 heures du matin, bon, le train, il te réveille. Le bon, tu sais, quand t'es dans ta blonde, quand t'es avec ta blonde, une blonde avec son chum, les deux se réveillent, ils sont là, ben, c'est la chaleur humaine, c'est quoi, je sais pas.
L'histoire est super le fun. Malheureusement, c'est faux. C'est une belle histoire. Puis cette histoire-là a été reprise un peu partout dans le monde à différentes époques, là, dans les années 50, 60, 70. Mais malheureusement, c'est jamais arrivé. C'est pas vrai, malheureusement, que ça s'est passé comme ça. Mais elle est tellement le fun, cette histoire. Ben oui. J'ai quasiment envie qu'elle soit vraie juste parce qu'elle est le fun à raconter.
C'est excellent. Écoute, j'ai un objectif d'en avoir au moins un de gagner.
Je suis convaincu que tu vas en trouver au moins un, Tristan. Je suis certain que tu vas réussir à en trouver au moins un d'ici la fin de l'émission.
Ben, je suis pas mal sûr pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je pense que c'est il y a une crédibilité derrière chaque
c'est
légende.
Fou comment qu'elles sont bien pensées, les légendes, puis bien amenées aussi. Là, c'est toujours le fun à écouter.
Ah, ben c'est excellent. Écoute, courte pause. Restez là, prenez une petite gorgée d'eau, tout le monde. Un petit Pepsi, un petit Coke. Non, c'est pas bon pour la santé. on rigole, ça donne le goût de rigoler, tout ça. Restez là, on revient dans quelques instants.
Les dossiers bizarres est une présentation de... Avez-vous déjà subi des douleurs ou des démangeaisons dues aux hémorroïdes? Ne faites plus une petite face surette en vous assoyant en public grâce à la crème Foufoune Joyeuse. Oui, la crème Foufoune Joyeuse soulage les douleurs, la démangeaison ainsi que le malaise social des hémorroïdes. De plus, la crème Foufoune Joyeuse peut être utilisée pour décaper un meuble, disponible dans toutes les bonnes pharmacies ou les quincailleries.
Et nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre. Jason Lévesque qui me met au défi aujourd'hui.
Ben oui!
En nous racontant des légendes urbaines. Et ensuite, il me pose la question, vrai ou faux? Ou faux avec un petit peu de vrai?
Ouais, ben c'est ça, on a trois choix dans le fond. Vrai, faux ou faux, mais qui a quand même une petite base dans la réalité.
C'est vrai, je l'ai oublié celle-là. Je vais m'en rappeler.
Mais jusqu'à maintenant, on a eu que des vrais ou faux. Pas d'ambiguïté, c'est vrai ou c'est faux. On a eu deux faux, un vrai. Puis je pense que la vraie, c'était probablement la plus incroyable des trois qu'on a présenté à Adam.
Exactement.
La dame qui est frappée deux fois par la foudre, puis qui ça guérit sa sclérose en plaques, ou une maladie similaire à la sclérose en plaques. C'est quand même assez impressionnant.
Ah, c'est fou. Puis tu sais, comme n'importe quel fan de super-héros, on a toujours voulu se faire pogner par un éclair pour se réveiller avec des super-pouvoirs.
Ça marche pas de même.
Non, ça marche pas, mais elle, un petit peu quand même.
Oui, absolument.
C'est un petit peu un miracle de ce genre-là. Là.
Tout à fait. Alors, j'en ai d'autres comme ça, puis on va continuer là, jusqu'à la toute fin. Ça va être ça. Là, jusqu'à la fin de l'émission, je te présente une petite histoire, puis tu me dis si tu penses que c'est vrai ou c'est faux.
C'est excellent.
J'en ai une extrêmement légère, là, où on sort des éclairs, puis des affaires un peu étranges. On va y aller avec ces deux amis.
OK.
Deux amis. Il y en a un, c'est un tombeur. Lui, là, il pogne avec les filles. Vraiment, il pogne, là, puis il a le tour.
OK.
Vraiment. Puis son ami, il est un peu plus timide. Il est gêné, il n'a pas confiance en lui, il a de la difficulté à se faire une blonde, puis là, il voit son ami aller, puis il est un peu jaloux. Tu dis, Carl, toi, là, tu pognes, là. Moi, je pogne pas. Là, son ami essaie de lui donner confiance en lui, puis il dit, regarde, approche les filles, puis essaie de juste d'être naturel, puis jase avec eux autres, puis ça marche pas.
Okay.
À un moment donné, il décide, pour augmenter la confiance en lui de son ami, il dit, écoute, ben, on va faire un coup là, qui va faire jaser de nous autres, puis qu'en plus, là, les filles vont dire, c'était écœurant, vous avez fait ça, les gars, j'en reviens pas. Ils vont nous tomber d'un bras. Fait que ce qu'ils décident de faire, les deux gars, avec un de leurs amis, ils partent en voiture. Les trois. Okay. Leur ami est au volant. Les deux sont dans l'auto et ils se déshabillent complètement. Ils arrêtent dans un restaurant. Et là, l'objectif, c'est de faire le tour du restaurant tout nu, en criant, et ressortir embarqué dans la voiture et s'en aller pour pouvoir quitter complètement. Mais on va savoir c'est qui, mais ils se feront pas poigner. Okay. C'est ça le but. C'est okay. Ça, c'est le plan.
Drôle de plan.
Drôle de plan, mais bon, il se dit, coudonc, tu sais, s'il fait quelque chose, une folie de main, ça va peut-être y redonner confiance en lui.
Attirer l'attention.
Voilà. Alors, les deux gars s'arrangent avec leur ami, on part, écoute, tu stationnes l'auto en avant du restaurant, t'attends 5 minutes, on va ressortir, on repart, et c'est fini. Ça dure pas longtemps, ça, ce genre d'affaire-là. Ils appellent ça du streaking. Ça marche aux États-Unis. Il y en a. On voit des fois sur un terrain de tennis, terrain de baseball, il y a quelqu'un tout nu qui décide de traverser le terrain. C'est un peu le principe.
Okay.
Ils arrivent au restaurant. Les deux gars sont déshabillés, sont prêts. Okay. Et ils sortent. Et là, ils partent. Ils s'en vont dans le restaurant en criant et en se faisant aller. Leur ami qui est dans l'auto, lui, il dit, j'ai le temps de fumer une cigarette. Il sort de l'auto puis il va fumer une cigarette. Et là, il y a un client qui voit les deux gorlots arriver tout nu. Il voit le gars sortir de l'auto. L'auto marche encore. Il dit, oh, un aubaine, une auto. Il sort du restaurant et vole l'auto. Alors là, on a notre gars qui fume la cigarette et qui fait comme, oh non, je viens de me faire voler le char. Et les deux niaiseux qui sortent du restaurant et il n'y a plus d'auto.
Oh non!
Et les vêtements sont dans l'auto.
Okay.
Et on est en plein hiver. Alors là, deux gars se retrouvent flambant nus dehors avec le restaurateur, les serveurs, les clients qui viennent les voir faire le tour du restaurant tout nu. Leur ami qui est là et qui dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais l'auto est partie. Et là, on se retrouve tous les trois flambant, ben en fait, deux flambants nus, l'autre le conducteur qui lui sait absolument pas quoi faire. Et là, on décide d'essayer de se rendre à la maison d'un de la gang pour dire, là, faut qu'on aille se cacher, ça n'a pas d'allure. Mais on est en plein hiver, tout nu, dehors. Finalement, on entend la police arriver parce que le restaurateur a appelé la police. Alors, les trois Marlots décident d'aller se cacher. Et là, on essaie de pas se faire voir. Évidemment, les policiers réussissent à les retracer. Et ils ont pas été arrêtés. Ils ont pas eu de contravention, rien. On a eu pitié d'eux. Les policiers en rient encore. Et on a été les reconduire chez eux pour qu'ils puissent aller se mettre des vêtements. Alors, est-ce que cette histoire-là est vraie ou bien est-ce qu'elle est fausse?
Ben, c'est plutôt crédible. Ça pourrait arriver, même que je connais des gars qui pourraient...
Au moins la partie où ils se retrouvent tout seuls dehors,
non,
c'est voiture.
Ça. Mais faire ce genre de conneries-là, je connais des gars qui seraient peut-être game de le faire. Fait que je veux dire que c'est vrai.
Hey, c'est bon.
Yeah!
C'est vraiment arrivé. Excellent. Alors, on a bel et bien deux jeunes hommes dans la vingtaine qui se sont retrouvés. Plus de voiture, plus de vêtements. Après avoir été donné leur show dans le restaurant comme ça, et le plan c'était de s'en aller le plus rapidement possible pour pas que le restaurateur et les clients aient le temps de réagir, mais là, on sort dehors, plus de voiture, on est coincé.
Tout était basé sur le plan de secours de la voiture.
De se sauver le plus rapidement possible, et là, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de vêtements, on s'est retrouvé vraiment coincé. Et les policiers ont bel et bien rapidement retracé. Évidemment, c'est facile à retrouver. Il y a trois gars, il y en a deux qui sont tout nus. Ah, OK, bonne description, ça. On devrait être capable. Ils ont retrouvé. Et on a bel et bien été reconduire les jeunes hommes à la maison sans pour porter de plainte, quoi que ce soit. Et tout le monde a bien ri, finalement, de l'histoire.
Ben c'est excellent, ça. C'est une bonne anecdote humoristique. Puis à la grandeur de la planète, je suis pas mal sûr qu'il y en a tellement des trucs de ce genre qui se passent. Puis celle-là, elle a été rédigée, on la connaît. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qu'on connaît pas, qui est arrivé.
Oui, ben c'est ça. Puis il y a probablement d'autres anecdotes du genre. Mais celle-là, elle a circulé beaucoup.
Okay,
après
ben connu,
coup, quand c'est arrivé, ça l'a beaucoup circulé. Les gens l'ont embelli, l'ont modifié. Mais l'histoire est bel et bien arrivée.
Ah, ben.
Ce n'est pas une légende. Ils ont bel et bien été coincés à l'extérieur. Pas de vêtements.
Une bonne réponse, trois mauvaises réponses.
Absolument.
Mais j'en ai une.
Ben, c'est bon. On peut terminer n'importe quand. T'as au moins eu ta bonne réponse.
Ben oui, c'est ça, exactement.
J'en ai un autre ici. Celle-là est un petit peu plus violente. Un petit peu plus. Une histoire un petit peu plus morbide.
D'accord.
Un petit peu plus sombre, un peu. En Californie, dans les années 80, énormément de gangs de rue, de gangs criminalisés. C'était la loi de la rue en Californie dans les années 80-90. Encore énormément de crimes, mais à cette époque-là, c'était assez intense. Et un de ces gangs de rue-là, on a tout entendu des initiations dans des gangs de rue, dans des gangs criminalisés, ont quelque chose à faire pour mériter leur place.
Uh-huh.
Dans ce gang de rue-là, ce qu'ils faisaient, ils circulaient en voiture, les lumières éteintes en pleine nuit.
Mm-hmm.
Et quand un automobiliste flashait les lumières pour leur dire « Hey, tes lumières sont éteintes », on fait tout ça. Hein? Quand je circule, je croise une voiture et les lumières sont éteintes, je vais le flasher pour qu'ils disent « Oh, mes lumières, je vais les allumer ». Mais là, le but, c'était que le premier véhicule qui flashait les lumières pour les avertir, il devait arrêter ce véhicule-là et tirer sur les gens à l'intérieur du véhicule. Il devait attaquer les gens qui avaient flashé les lumières les premiers. Alors là, on a un jeune homme de 18 ans à peu près, qui veut faire partie du gang. Lui, là, il veut être un tough, il veut être un dur, il veut faire partie du gang. Fait qu'il gravite pendant quelques années autour du gang. Ça commence comme ça. On est comme le petit junior, le petit pee-wee, puis tranquillement, on gravit les échelons. Et là, il arrive au moment où on lui demande « Est-ce que tu veux devenir membre à part entière? » Il dit oui. On lui offre une arme flambant neuve et on lui explique quelle est l'initiation qu'il doit faire. Et là, il part ce soir-là dans son véhicule, les lumières éteintes, avec deux de ses amis. Il a son arme, il est prêt, il veut réussir à faire partie du gang. Il s'en va, les lumières éteintes. Un véhicule le croise, flash les lumières. Alors, rapidement, il tourne, il frappe le véhicule avec son véhicule, réussit à l'immobiliser, sort du véhicule sans regarder quoi que ce soit, il tire sur la place du passager, du conducteur, il retourne dans son véhicule et quitte. Très rapidement.
D'accord.
Cette histoire-là, c'est une histoire qui était connue des forces policières dans le secteur où il était. Alors, il y avait des avertissements. Faites attention, si vous voyez une voiture, les lumières éteintes, ne flashez pas vos lumières, c'est dangereux. Alors, le lendemain, les journaux font un bilan de ce qui s'est passé la nuit précédente. Et là, on explique que le chef du gang a été retrouvé, criblé de balles, au volant de son véhicule. Et il voit la photo, et c'est lui qui a tiré le chef du gang duquel il voulait faire partie. Le chef du gang, par réflexe, a flashé ses lumières quand il a croisé son véhicule et il lui a dit « Oh, il a flashé les lumières, c'est lui !» Et il a été le criblé de balles.
La recrue, l'initié, a tué
le chef.
Le recruteur, dans le fond.
Voilà.
Oh, ouais. Oh my God. Ça me fait capoter cette anecdote-là. Pourquoi? Parce que cette légende urbaine-là, Jason, pas au complet, mais l'affaire des gangs de rue qui flashent, les voitures.
Oui.
Je le savais, j'en avais déjà, ah, j'en avais
entendu
parler.
Déjà entendu?
Ben oui. Hey. C'est fou, ça veut dire que dans mon vivant, cette légende urbaine-là.
Ça, elle t'a croisé.
Exactement.
C'est fou, hein? Tout est
dans toi. Moi, c'était à Montréal. Moi, j'ai grandi près de Montréal.
Ouais,
puis,
ouais.
C'était une mise en garde qu'on avait réellement de la part des adultes. On se le faisait dire, puis c'était vrai. Les gangs de rue à Montréal. Nous autres, je sais pas si c'était vrai ou pas, là, mais on nous le disait.
De flasher pas vos
lumières. Flasher pas vos lumières à des voitures qui ont les lumières fermées à Montréal, parce que c'est une initiation pour faire partie des gangs de rue. Ils vont venir te casser la gueule, ils vont venir te tabasser ou même te tirer dessus. Fait que fallait pas le faire. C'est fou, pareil, ça s'est rendu à Montréal.
C'est incroyable,
hein? C'est incroyable, j'en reviens pas. Puis, ben moi, je vais dire que c'est vrai.
Ouais.
Je vais dire que c'est vrai.
Tout est faux dans cette histoire-là. Tu t'es fait, quand t'étais jeune.
Ben oui.
Tu t'es fait contaminé par une légende urbaine qui est totalement fausse. C'est vraiment... J'espérais tellement que ça arrive!
Oh my God.
Il faut qu'il y en ait eu une qui a entendu quand il était plus jeune. Ça n'en prend au moins une, et c'est celle-là. Et en plus, ça en est une grosse, là.
Puis, c'est fou,
incroyable.
Parce que c'était ancré dans ma gang d'amis, là. Puis tout, on venait d'avoir notre permis, puis... T'sais, on le savait, là, même que la rumeur allait même à identifier les gangs de rue à Montréal qui faisaient ça.
Mais c'est comme ça dans toutes les régions du monde où cette légende-là a été véhiculée.
C'est
Il y avait des noms, là, c'était cette gang de rue-là. Ça, ça, c'est leur initiation à eux autres. Eux autres,
ben
c'est,
oui,
c'est d'aller faire un vol de banque. Eux autres, c'est de battre quelqu'un. Ben, eux autres, c'est l'histoire de flasher les lumières. Il y avait toute leur initiation et ça en faisait partie. Et on identifiait quelle gang faisait ça alors que ce n'est jamais arrivé, cette histoire-là.
C'est donc
ça
n'a
jamais existé, cette initiation.
J'apprends ça à 27 ans aujourd'hui. Ça
c'est
fait 27
cool,
ans que je suis sur la Terre et que je crois à ça. Puis là, tu viens de genre péter ma ballonne.
Ben, j'espère tellement qu'on tombe sur quelque chose comme ça. Là, je me suis dit, quand je t'ai vu, j'ai dit, ah, il a connu, fait qu'il va avoir la bonne réponse. Mais je suis content. C'est vraiment cool.
Mais tu vois, nous autres, on y croyait. Nous autres, c'était même pas une légende urbaine.
Non, non,
nous autres,
c'était un fait.
Fait.
Ben, oui.
C'était un fait.
Puis en Californie, ça a longtemps été considéré comme un fait réel.
Ah, ouais,
longtemps, 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 on a considéré que ça se passait bel et bien, ce genre d'histoire-là, et qu'il y avait bel et bien eu une initiation qui avait mal tourné et où le chef de gang avait été assassiné par la recrue parce qu'il avait fait clignoter ses lumières, il avait flashé ses lumières quand il l'avait croisé.
Fait que tout ça, c'est faux.
Et c'est complètement faux.
Cette personne qui a inventé cette légende urbaine a atteint...
C'était viral avant même l'arrivée d'Internet.
C'est ça, exactement. Là, j'en reviens pas. On va se coucher moins niaiseux à soir.
C'est incroyable, vraiment. Puis elle aussi, malgré qu'elle soit morbide, elle est intéressante, cette
ben
légende.
Oui.
Elle est le fun, là, vraiment, à raconter. Ben.
Je vais dire ça à mes amis, je vais les amener. Ah, tu sais, l'histoire des gangs à Montréal, c'est pas balèze, ça!
Hey, on en a d'autres, on en a d'autres. On a le temps.
Ben
on
oui,
a le
on
temps.
A le temps.
Ouais. Écoute, j'ai... Ah, ben oui. Un jeune homme dans la vingtaine. Écoute, dans le Midwest américain, hein, toi, tu tripes météo, phénomène météorologique.
Oui, vraiment.
Phénomène des tornades, le corridor des tornades aux États-Unis, là, dans le Midwest, là, territoire très plat, exact. Très propice aux tornades. Et d'autant plus, les parcs de maisons mobiles ou les parcs de roulottes, oui. Où c'est dans des plaines là, à perte de vue. C'est très propice. C'est pas parce qu'ils habitent dans des maisons mobiles. C'est la location, l'endroit géographique où ils se trouvent est très propice aux tornades.
Il y a un corridor précis aux États-Unis où il y en a tellement des tornades à chaque année, des centaines et des centaines.
Voilà. Et plus le terrain est plat, plus c'est propice à avoir des tornades là, d'envergure, de grande ampleur. Alors toi qui tripes sur les phénomènes météo et sur ces phénomènes souvent destructeurs comme les tornades, j'en ai une pas pire pour toi.
OK, excellent.
Jeune dans la vingtaine, jeune homme orphelin qui habite avec sa grand-mère. Sa grand-mère habite dans une maison mobile aux États-Unis, dans le corridor des tornades.
OK.
Les deux habitent dans une maison mobile et un soir, ces gens-là vivent avec ça au-dessus de la tête. Oui. Les tornades, là, ça fait partie, eux, de leur vie. Le risque des tornades.
Exactement, oui.
Souvent, il va y avoir des abris proches, mais on n'a pas toujours le temps de se rendre à l'abri. Des fois, c'est très rapide que la tornade se forme et va détruire tout ce qu'il y a sur son passage. C'est un peu ça qui s'est passé un soir. Le jeune homme est dans le salon, la grand-mère est dans sa chambre, et là, le sol se met à vibrer, la maison mobile se met à branler, et là, on le sait, on n'a pas le temps. On n'aura pas le temps de sortir, on n'aura pas le temps d'aller se mettre à l'abri. On est en danger. On fait en sorte, bon, les mesures d'urgence pour ou ce qu'on doit faire là, en cas de tornade, on peut pas aller se mettre à l'abri. On essaie de sécuriser, on essaie de pas être dans un endroit où il peut y avoir des objets qui vont nous frapper. On essaie de se mettre en sécurité le mieux qu'on peut dans la situation où on est coincé dans la maison mobile. La grand-mère sort de la chambre pour crier à son petit-fils de se mettre à l'abri et elle voit la moitié de la maison mobile qui est arrachée et qui s'envole dans le cône de la tornade. Le jeune homme est à l'intérieur.
Ah ouais.
Le jeune homme est pris dans la tornade le mange carrément. Une heure plus tard, le jeune homme revient ensanglanté, blessé, côte fêlée, des écorchures, mais pas plus que ça. Et il arrive et la maison mobile est détruite. Il s'en va chez le voisin pour dire « Écoute, je viens de me réveiller à 2 kilomètres d'ici et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je suis blessé, peux-tu m'amener à l'hôpital? » La grand-mère est là, elle a réussi à s'en sortir le indemne. Elle retrouve son petit-fils et le petit-fils a été aspiré avec la moitié de la maison mobile dans la tornade et la tornade l'a recraché. Et il est atterri à 2 kilomètres plus loin, indemne ou presque, avec des blessures très mineures. Le lendemain, il sortait de l'hôpital. Il a survécu là, sans aucune séquelle à cet événement-là qui est absolument presque impossible.
Ben oui, c'est
mais
ça.
Est-ce que c'est arrivé, Tristan? Le destin a fait en sorte que... Ah, parce que là, pour les gens qui connaissent pas trop le phénomène d'une tornade, c'est ça ramasse absolument tout.
Oui.
C'est une succion qui se fait. Il y a de la pierre, il y a des briques, il y a du bois, il y a des branches, il y a des meubles, s'il y a des maisons qui ont été détruites. Il y a toutes sortes de débris qui, à très grande vitesse, circulent dans le cône. Et le temps que le cône nous aspire, on continue d'être pris dedans. Et éventuellement, le cône éjecte les débris, incluant le jeune homme dans la vingtaine qui s'est retrouvé coincé dans la tornade. Et lui, il a été projeté 2 kilomètres plus loin à une vitesse absolument incroyable. Et il s'en est sorti sans aucune blessure grave.
Ben, à la quantité de... Là, j'ai plusieurs petites pensées. À la quantité de personnes qui décèdent chaque année dues aux tornades aux États-Unis... Ça, t'sais, j'imagine que, mettons, qu'il y a 1 personne sur 1000 qui survit à une tornade ou 1 personne sur 1 million, t'sais, dans le sens que je pense que les tornades, c'est extrêmement meurtrier, mais je crois que c'est peut-être possible aussi avec une chance incroyable de survivre, mais encore là, c'est un peu comme un crash d'avion. T'sais, un avion, un Boeing là, qui crash. Là,
techniquement, rien
ne survit. Ben non, c'est ça, mais ça arrive des fois qu'il y a
on
un
a vu,
deux.
Je me souviens d'une histoire en particulier d'une hôtesse de l'air qui était dans son siège d'hôtesse, hein, parce qu'ils ont un siège à l'arrière de l'avion habituellement, attaché, et elle était encore attachée dans son siège sans à peu près aucune égratignure, que l'avion était complètement détruit autour d'elle. L'avion était complètement là, il n'y avait plus rien qui tenait. Tout le monde était décédé, et elle était dans son siège, en parfait état. Ah, elle a survécu sans problème là, à l'écrasement.
Je pense aussi aux parachutes. Des fois, il y a des parachutes qui ne s'ouvrent pas et il y a des gens qui ont survécu.
Quelques histoires, oui, c'est
exact,
ça.
Une chute de 3 km.
Ben oui,
c'est peut-être pas 3 km, là, mais en gros, je vais y aller avec vrai parce que...
Ouais. C'est vrai.
Ah ouais.
C'est vrai, il y a bel et bien. Et c'est pas, l'histoire n'est pas romancée du tout. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ouais. Le jeune homme a été aspiré avec la moitié de la maison mobile. Là, la tornade a comme passé sur une moitié de la maison, a tout aspiré ce qui était là. Et le jeune homme s'est retrouvé dans le cône de la tornade, s'est fait barouetter à gauche, à droite. Et dans tout ça, le temps qu'il a été dans le cône, il n'a pas été transpercé ou frappé par un objet qui aurait pu le tuer.
C'est
incroyable la chance qu'il a eue. C'est je ne sais pas c'est quoi les probabilités de tout ça, mais ça doit être dans les 1 sur plusieurs millions. Ça se peut à peu près pas qu'il ait survécu à ça.
Ben, c'est exactement ça. Cette légende-là et celle de la madame qui se fait comme pognée par un éclair et qu'elle survit 2 fois. Ça, c'est la définition idéale du miracle.
Ah oui, absolument, absolument.
Quand on parle d'un miracle...
Peut-être pas au sens religieux, mais non. Vraiment, là, c'est miraculeux que la personne ait survécu.
Au niveau des probabilités, au niveau des mathématiques, voilà. On parle vraiment d'une manière très, très pragmatique. Là, que si tu dis qu'il y a une chance sur tant de millions de survivre à une tornade, mais il y en a une chance. Il y a peut-être 3 briques qui ont passé à 1 centimètre de la tête quand
peut-être
il était dans le tornade.
Ils ont juste accroché, juste passé, c'est juste effleuré. Mais il a réussi à survivre, en fait, réussi. C'est pas comme s'il avait accompli quelque chose, mais il a survécu à son périple à l'intérieur du cône d'une tornade. Et c'est la projection, moi. Je me dis, dans la tornade, peut-être qu'elle était neuve, la tornade. Il n'y avait pas trop de débris dedans. C'est quand même pas pire. Mais la tornade l'a quand même craché à 2 kilomètres de là. Fait que là, il a volé dans l'air. Là. Il a volé sur une assez grande distance avant de s'écraser au sol. Et malgré ça, il a quand même survécu. C'est très impressionnant.
Ça me fait penser à une anecdote. T'sais, quand quelqu'un dit « j'ai une bonne anecdote », lui, il a clairement toute sa vie la meilleure anecdote de pour dire.
Il attend que tout le monde ait fini. Ouais. Fini, là? Hein? Non, t'as plus rien à dire? Ton histoire est finie? Excellent. À cette heure, on va vous compter la mienne.
Moi, j'ai battu une tornade.
Moi, j'ai rentré dans la tornade, elle m'a craché, puis elle m'a même pas fait mal.
C'est complètement fou, mais c'est épique.
Ah, c'est incroyable. C'est absolument incroyable, ce genre d'histoire-là. Moi, ça me... j'ai de la difficulté à imaginer, mais lui, je sais pas si... Parce que j'ai vu là toute petite entrevue avec le jeune homme, ne semble pas trop se souvenir de l'événement comme tel. Lui, là, ça a été très rapide, il a été absorbé par la tornade. Déjà, c'est très difficile, hein, il n'y a pas beaucoup d'air parce que ça tourne pas très vite, c'est que du vent. Et il se souvient de s'être réveillé au sol. C'est tout ce qu'il se souvient. Là, l'intérieur de la tornade comme tel, il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ça.
Ah ben c'est là qu'on voit que le corps humain est capable d'en prendre.
On est solide.
Ben, c'est ça, exact. Encore là, oui puis non, parce que tu sais, il y a du monde qui meurt après une bataille dans un bar, tu sais, puis il se trouve un coup sur la tempe, là, c'est fini.
Ouais, ben c'est ça.
Puis il y en a d'autres qui passent dans une tornade, puis se trouvent.
Absolument. On est fragile en même temps, on est très solide.
C'est ça.
Tout dépend là, de ce qui se passe ou de ce qu'on vit. C'est quand même assez particulier.
Ah, très cool, très cool.
Légende urbaine très populaire, Tristan. Puis les auditeurs, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui l'ont entendu. Il y en a probablement plusieurs qui connaissent la réponse aussi. Mais c'est quelque chose qui a la couenne dure comme légende. Alors, on parle, ben, mettons toi, tiens, tu décides, toi, qu'on peut voyager maintenant. Et tu dis, bon, moi, je vais aller au carnaval de Rio. Fait chaud, c'est beau, il y a de la musique, il y a des madames, c'est beau, c'est le fun, puis je vais aller avoir du plaisir là-bas. Fait que je vais aller vivre mes vacances au carnaval de Rio. Parce que j'ai le goût d'avoir du fun. Tu te rends au carnaval à Rio, tu as du fun pendant plusieurs jours. Et là, à un moment donné, une soirée bien arrosée, tu rencontres une jeune dame. La jeune dame réussit à te séduire, te fait boire énormément d'alcool. Et le lendemain, tu te réveilles dans la baignoire de ta chambre d'hôtel avec une cicatrice derrière, juste au-dessus de la fesse droite. Et là, tu as un téléphone cellulaire avec un numéro de téléphone. Tu appelles le numéro, c'est l'hôpital. Et là, l'hôpital... Tu leur dis, écoute, je me suis réveillé dans le bain, il y a du sang, je sais pas ce qui se passe, j'ai une cicatrice en arrière, on semble m'avoir fait des points de suture, je comprends plus rien, venez me chercher s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Et là, on t'amène à l'hôpital et on t'ausculte et là, on se rend compte que la coupure et la suture qui a été faite, c'est très professionnel, mais t'as plus de rein en arrière.
Ah, vol de rein.
Le rein a été enlevé. pour le marché noir des organes humains.
Ça, c'est tellement une peur incroyable.
Et on en a beaucoup des histoires de touristes qui ont il y en a que c'est carrément charcuté, mais la plupart du temps dans l'histoire, c'est fait de manière très professionnelle. Parce que c'est pas n'importe qui là, qui peut enlever un rein qui va être propre à la transplantation. Il faut que ça soit bien fait. Mm-hmm. Donc, ça prend quelqu'un qui a des connaissances médicales. Alors, la personne se réveille dans le bain avec une cicatrice, du sang. La personne, souvent, des fois, on va dire d'un bain d'eau froide ou même avec de la glace. Et là, avec un cellulaire et un numéro de téléphone juste à côté du bain pour que la personne puisse appeler les secours et être sauvée. Pourquoi? Parce que c'est moins grave de voler un organe que de tuer une personne.
Ouais.
Alors, on veut être sûr que la personne va survivre. Comme ça, si on se fait prendre, les accusations vont être moins graves. Uh-huh. Mais on a volé son rein pour le vendre sur le marché noir.
Premièrement, wesh. Je veux... Ça, c'est une affaire qui me fait peur, pour vrai. Dans
C'est traumatisant.
Ouais, c'est traumatisant.
De penser que quelqu'un peut aller à l'intérieur, juste se faire voler son portefeuille. On a l'impression d'avoir été violé dans notre intimité. Mais là, imagine qu'on a enlevé une partie à l'intérieur de toi.
C'est un cauchemar.
C'est incroyable.
Je vais y aller avec vrai.
Ouais.
Ouais.
Alors, malheureusement, Tristan, c'est faux.
Excellent.
Cette histoire-là là, circule depuis de très nombreuses années. Là. Ça fait au moins minimum 40 ans cette histoire-là circule. Des fois, habituellement, c'est toujours un touriste.
Okay,
c'est toujours un touriste. Des fois, c'est une touriste. Habituellement, la personne est dans un bar ou dans une fête. J'ai pris le carnaval de Rio parce que c'est un événement d'ampleur où les gens consomment une quantité d'alcool phénoménale, où il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont là pour plaire aux hommes. Fait que le contexte est parfait. C'est souvent ce genre de contexte-là qui est mis en scène pour cette histoire-là. Et la personne se retrouve en compagnie d'une personne du sexe opposé, boit une grande quantité d'alcool, donc il ne se passera pas de folâtrerie cette nuit-là. Il va se passer une opération chirurgicale parce que la personne est en état d'ébriété très avancé. On s'arrange pour que la personne soit ramenée à l'hôtel ou dans une salle quelconque. On la met sous anesthésie, on lui enlève le rein, on la ramène à sa chambre d'hôtel par la suite. Et cette histoire-là circule partout dans le monde. Ça se passe n'importe où. Dès qu'on peut réussir à situer un peu la mise en scène, ça va se passer là. Ça n'arrivera pas, par exemple, à Montréal. Je sais pas pourquoi. C'est pas assez exotique, j'imagine, là. Mais on va souvent mettre ça dans des pays un peu plus exotiques où on pense que les lois ou la moralité est plus basse un peu, où on va se prêter à ce genre de choses-là. Mais on ferait jamais ça ici.
Ben, si je vois justement comme l'idée derrière pourquoi raconter cette légende. Tu sais, mettons, bon, j'imagine un bonhomme là, qui veut décourager sa fille d'aller dans des pays.
Ouais, ça peut servir à ça, exactement.
Tu vas raconter une légende, tu vas voir, tu n'iras pas. mais je suis content de savoir que c'est faux.
Mais c'est faux, oui. Ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Ça, on pourrait dire quasiment faux avec... Bon, il est arrivé quand même des choses. Parce que oui, il y a eu, dans certaines situations, du trafic d'organes. Il y a eu, dans certaines situations, des gens qui ont vendu eux-mêmes des organes. Parce qu'un rein, on peut s'en départir. C'est pas le fun, là. Puis après ça, le reste de ma vie va être beaucoup moins confortable, mais je peux m'en départir sans mourir de mon rein. Fait qu'il y a des gens qui ont vendu leur rein, c'est arrivé. Il y en a eu du trafic d'organes.
Pour les gens qui veulent tout savoir là-dessus, ton épisode sur les dons, le marché noir.
Ouais, et voilà, le marché de la mort, hein, le dernier, là, qui, lui, prenait des gens qui étaient pour être embaumés, pour être exposés et enterrés et volait les organes à l'intérieur en faire du trafic. Donc, oui, ça existe.
C'est ça.
Et déjà, il faisait ça sur des cadavres et c'était... Mais là, imaginez, on fait ça sur quelqu'un de vivant.
Là,
il volait un rein. Alors, mais oui, il y a quand même une certaine base dans la réalité parce qu'un rein humain compatible avec quelqu'un qui en a besoin pour vivre peut avoir une valeur monétaire très intéressante.
C'est ça. Donc, faux, mais c'est clair qu'il y a déjà eu peut-être des histoires.
Il y a probablement eu quelque chose à un moment donné là, qui a pu se rapprocher un peu. Mais là, on a agrémenté l'histoire avec le touriste.
C'est ça. Cette légende précise-là,
C'est faux, mais on le sait que, bon, oui, il y en a du trafic d'organes qui a pu se faire ou qui se fait peut-être encore, mais pas sous cette forme-là. On volera pas le rein à quelqu'un là, en santé qu'on a croisé dans un bar, ça se fait pas comme ça.
Ça me fait penser à la fin du film Dumb and Dumber 2, tu sais, la cloche et l'idiot.
Oui.
Le 2, je sais pas si tu l'as vu.
Non, j'ai pas vu le 2.
Ah, mais là, je te raconterai pas la fin.
Vends-moi pas le punch.
Ben, à voir. Regardez ça, puis on s'en reparlera.
Absolument. Alors, ben voilà, c'était une autre J'ai envie d'en faire un autre.
Ben écoute, on a le temps d'en faire un autre.
On en fait une dernière.
Ben oui, c'est bon ça.
On en fait une dernière.
Ouais, j'en ferai pendant 2 heures, mais vous le savez, on essaie de garder quand même notre émission d'une durée d'une heure maximum.
Ouais, c'est ça, on essaie de se garder. On a triché un petit peu là, dans les derniers épisodes, mais on essaie quand même de se garder proche de 1 heure. J'en ai une dernière.
Excellent.
Pour toi. Et je l'aime beaucoup celle-là, mais elle est morbide un peu aussi. Elle est un peu. Ça finit pas bien. Ça finit pas bien, mais je l'aime beaucoup pareil.
Je suis à l'écoute.
Depuis qu'on a commencé à construire des immeubles, des tours à immeubles, de plus en plus, on s'est retrouvé avec des immeubles, des gratte-ciels qui étaient entièrement vitrés.
Oui.
Il y en a de plus en plus. C'est la mode. On a une tour immense de 60 étages. On a l'impression que c'est une tour de verre qui a été plantée dans le sol. Et ça, c'est bon, ça date pas d'hier, là, dans les années 70-80, on a commencé tranquillement. Dans les années 90, presque tous les immeubles construits avaient l'air de ça.
C'est vrai.
Il y a un immeuble qui a été construit à Toronto. Ah, écoute, je l'ai-tu encore le nom de l'immeuble? Oui, voilà, la tour de la Toronto Dominion.
Okay.
La banque Toronto Dominion, qui a été construite en 1993 à Toronto.
C'est l'année où je suis né. Ah.
Donc, c'est une histoire qui date de ton année de naissance.
Ben oui.
Et là, on a un monsieur qui s'appelle Gary Hoy. Gary Hoy, c'est un avocat qui a ses bureaux au 24e étage de la tour Toronto Dominion à Toronto.
Okay.
Et lui, son fun, parce que lui, il a assisté à la construction. Lui, il a jasé avec les ingénieurs, avec les travailleurs. Et il a son bureau là depuis l'ouverture.
Okay.
Le jour 1, okay, son bureau était là.
D'accord.
Et il sait comment la tour est faite. Et il a bien du fun quand il y a des nouveaux employés ou des stagiaires. Il leur dit « Check bien ça! » Il part à courir et il fonce dans la fenêtre à pleine vitesse. Et là, les gens font comme « Ah, il va tomber! » Et là, lui, il trouve ça très drôle parce qu'il sait que le verre qui a été installé, écoute, une balle de carabine passerait pas au travers. C'est
ouais.
Extrêmement solide. Alors, il n'y a aucun risque pour lui. T'as l'image dans ta tête.
Je sais pas mal où tu t'en vas avec ça. J'ai comme un doute. Tabarouette. OK, continue.
Alors, à un moment donné, M. Gary Hoy, il engage une nouvelle secrétaire. Et là, elle est jolie en plus. Alors, l'homme de 38 ans veut l'impressionner. Et tu gardes bien ça. Il part à courir et il fonce dans la fenêtre. Bang! Et la fenêtre a lâché. Elle n'a pas cassé. La fenêtre s'est déchaussée.
Je comprends.
Du côté de l'immeuble. Alors, le verre n'a pas brisé, mais le support pour le verre, lui, il a lâché parce qu'il fonçait tout le temps dans la même fenêtre. Donc, il a créé, à un moment donné, certaine cassure dans le mécanisme qui tenait la fenêtre. Et là, ça l'a lâché. Et M. Hoy a tombé de 24 étages et il est décédé, bien sûr, parce qu'il était convaincu que la fenêtre allait le garder dans son bureau et il a tombé en bas et il est mort.
Ah, mon Dieu! Mon Dieu!
Je l'aime, cette histoire-là, mais elle finit tellement
non,
mal!
Non, c'est ça! Mais tu sais, à la quantité de morts inusitées qu'on a dans toutes sortes de livres, de recueils et tout ça, tu sais. Mais celle-là, là, tu sais, c'est tellement... Ça me fait penser un peu à un gag des Simpsons, mais qui se finit mal.
Ouais.
je vais y aller avec malheureusement vrai.
C'est vrai.
Ah ouais!
Écoute, j'avais 18 ans quand c'est arrivé, ça. Moi, j'ai vu la nouvelle.
Ah ouais!
Je l'ai vu, cette nouvelle-là. De mon vivant, là, je l'ai vu. Alors, quand je suis tombé sur cette légende-là dans la liste de légendes que je suis allé consulter là, dans les dernières semaines, parce que, ben, voyons donc, ils ont classé ça dans les légendes urbaines. Et oui, parce qu'il y a plein de gens qui la racontent, cette histoire-là, partout dans le monde depuis 1993. Là, on parle quand même d'il y a 27 ans. Ça fait depuis 27 ans, on parle de Gary Hoy qui a fait le coup à ses employés pendant plusieurs mois, plusieurs années, et qu'à un moment donné, pour impressionner une nouvelle employée, malheureusement, la fenêtre a carrément débarqué de la façade de l'immeuble et il est descendu 24 étages plus bas. Il doit être resté bête.
C'est exactement.
C'est le moment, la seconde où la fenêtre a lâché à l'impact.
Puis il y a quelque chose de macabre, comme tu le dis, de un peu barbare, je sais pas comment le dire. Mais il y a du monde, tu sais, qui joue avec la mort pour faire des blagues.
Ouais.
Et j'ai l'impression que parfois. Ça, si ça se retourne contre eux, c'est la mort qui gagne.
C'est ça, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, on peut avoir, c'est pas drôle, il y a un homme qui est mort, puis c'est triste, il est décédé, le monsieur, puis bon, il avait juste 38 ans, c'est très jeune, mais en même temps, Le monsieur se donnait un élan, puis il fonçait d'une fenêtre au 24e étage.
Il faisait semblant de...
À quoi tu t'attends, là? À un moment donné, il peut arriver quelque chose. Lui, il était tellement sûr de son coup. Et malheureusement, la dernière fois qu'il l'a fait, c'est la fois où ça l'a lâché parce qu'il est décédé.
C'est drôle. Je trouve ça un peu épeurant parce que j'ai l'impression que ça donne une forme réelle à ce qu'on appelle la mort.
Ouais, 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 c'est comme...
Avec, c'est ça, avec la faux, ouais, tu sais. Ouais. Comme, il veut rire de moi, il fait juste, et voilà.
Attends un peu, à un moment donné, tu t'y attendras pas, c'est puis m'en t'envoies. Parce que la première fois qu'il fait ça, probablement qu'il y avait le cœur qui voulait sortir de la poitrine, là, parce que veut pas, notre cerveau, même si je le sais, qu'il n'y a pas de danger, mon cerveau, lui, ce qu'il voit... C'est que je trouve un 24e étage et je me précipite vers le vide, là.
C'est ça.
Parce que les fenêtres faisaient le mur complet. Ah, là, c'était un mur vitré. Alors mon cerveau, lui, fait comme non, fais pas ça. Et je fais pareil. Et ça me donne un certain boost d'adrénaline. Ouais. Ça me donne un coup de wow! Ça me fait sentir vivant. Puis à un moment donné, probablement qu'à force de le faire, il est devenu comme un peu confortable. J'étais plus trop épeurant. Cette fois-là, la fenêtre a lâché. Oui, c'est bel et bien une vraie histoire que j'ai moi-même pu voir dans les nouvelles en 1990.
Je viens d'avoir un sentiment très désagréable, Jason. Je viens de me mettre à sa place.
Oui, ben l'empathie, hein, c'est pas une bonne idée dans ce genre d'histoire.
Tu sais, le genre de 5 secondes, même en fait, la seconde où...
Le moment où ça l'a lâché, parce qu'il a senti que son corps continue. Ça a dû être quelque chose d'assez déplaisant à vivre. Les quelques secondes de la chute l'ont dû être incroyablement... Non, c'est ça. On se met pas à sa place.
Ben non, c'est ça. Notre podcast reste sur le net. Hein, si jamais, une chance sur un million, on parle d'une chance sur un million, quelqu'un de la famille nous entend, sachez qu'on a tout.
Ben oui, voilà. C'est malheureusement, puis comme je l'ai dit, c'est une histoire très triste qui finit très mal. Mais en même temps, quelqu'un qui roule à 200 km/h sur l'autoroute, ça peut être un père de famille, une très bonne personne, mais il s'est mis quand même en danger en roulant à une vitesse complètement ridicule. Ça n'enlève pas que c'est pas une bonne personne ou que c'est une mauvaise personne. Exact. Ce que ça dit, c'est que son comportement l'a prédisposé à mourir très jeune. Et c'est ce qui est arrivé avec M. Hoy. Malheureusement, son comportement a fait en sorte que vie s'est terminée très, très jeune.
Ah, c'est fou comme anecdote, comme légende. Ça me fait penser peut-être rapidement au, tu sais, le gars qui faisait des émissions avec les animaux.
Oui, Steve Irwin, qui malheureusement est mort en faisant ce qu'il aimait.
C'est ça. Puis, tu sais, moi, pendant longtemps, je pensais que c'était une légende urbaine, ça, que c'était le pic, le nez pointu d'une raie qui a rentré dans le corps. Puis, tu sais, j'étais comme,
Moi aussi, quand la nouvelle est sortie, je pensais que c'était une blague, c'était une mauvaise blague. Et finalement, non, c'est vraiment ce qui est arrivé. C'est le genre de choses. Mais lui aussi, je veux dire, il travaillait avec des animaux extrêmement dangereux. Il était très bon dans ce qu'il faisait. C'est un excellent père de famille aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais sa fille suit ses pas un peu. C'est un excellent papa et un homme très gentil, très agréable. Mais son métier, ce qu'il faisait, le prédisposait à ce genre d'accident-là. Et malheureusement, ça a fini par arriver.
Eh bien. En tout cas, pour finir, tu me donnes le goût de me faire empoigner par un éclair.
On va voir Tristan sur le toit de la station ce soir avec une barre de métal dans les mains.
Moi, pour vrai, c'est de quoi que j'ai peur, là. Pour vrai, je suis ridicule, là. Mais quand j'étais jeune, j'avais pas peur pantoute des orages. Peut-être, en fait, c'est pas vrai. Quand j'étais jeune, j'avais un peu peur, mais aujourd'hui, je trouve ça cool. J'aime ça, le son, le tonnerre.
Ouais, c'est impressionnant.
Mais quand, mettons, je suis dehors, puis là, ça commence à tomber, puis il y a des éclairs, j'ai toujours le feeling que je vais me faire pogner par un éclair.
Moi, je pense qu'on est tous comme ça, Tristan. On regarde autour. Y a-tu de quoi de plus haut que moi? Y a-tu quelque chose qui va capter l'éclair? Ou ben non, est-ce que je suis tout seul dans une plaine et c'est moi l'objet le plus haut? C'est moi l'objet le plus haut, je deviens le paratonnerre.
C'est ça.
Alors là, c'est est-ce qu'il y a un immeuble à quelque part qui va pogner l'éclair avant moi? C'est un peu, je pense qu'on a tous un peu cette réflexion. Sans nécessairement avoir peur, je pense que humainement, sans même y penser, on a le réflexe quand même de regarder autour et dire... Est-ce que je suis en sécurité à l'endroit où je suis? Puis je pense que c'est humain de toute façon de faire ça, d'avoir cette réaction-là face à un phénomène. C'est extrêmement impressionnant, là, les éclairs.
C'est ça.
C'est commun parce qu'on en voit tellement dans notre vie qu'à un moment donné, on y porte plus ou moins attention. Mais dans une seule éclair, la quantité d'énergie qui est déployée, c'est phénoménal. Et chaque éclair, on peut vivre des fois, puis on a tous vécu des fois un orage, à peu près tout le monde a vécu un orage mémorable.
Un orage
où c'est un éclair en arrière de l'autre.
Exactement.
Pendant 15 minutes,
ça
là,
tombe près des
c'est,
fois. Là.
C'est ça, c'est autour de nous et c'est très rapide. C'est un éclair, et ça n'arrête pas. On a tous vécu un orage comme ça, ou même plus, parce que moi, dans mon cas, j'en ai quelques-uns là, à mon actif, mais je suis plus vieux que toi, fait que ça compte pas. Mais c'est à ces moments-là, qu'on ait peur ou non des orages, ça reste qu'à un moment donné, il y a une espèce de sentiment de ça va-tu finir un moment donné? Parce que là, ça commence à être beaucoup, là.
C'est ça, exactement.
On n'aime pas ça.
Non, non, c'est ça. Ça reste des phénomènes météorologiques qui nous mettent un peu à l'épreuve.
Ouais,
notre
absolument.
Maison, notre sécurité, tout. Ça reste un petit peu dangereux, quand même.
Absolument. Un orage, oh, oui, ça reste. C'est pas une force à négliger, mm-hmm. nécessairement, un orage. On ne rit pas de ça. Il faut quand même s'assurer de. Puis, comme j'ai dit, hein, on ne met pas des crampons en métal avec un parapluie en métal dans les mains. Là, on devient un paratonnerre quand on fait
c'est ça.
Il y a des précautions à prendre, même si des orages, on en a vu toute notre vie, puis on va en voir toute notre vie. Il reste que des précautions à prendre.
Exactement. Puis peut-être, pour finir, j'aime bien les probabilités, Jason.
Oui.
Puis j'aime. Des fois, je me dis, il y a du monde qui s'achète un gratteux, un billet de l'automax, ils ont une chance sur 10 millions de gagner, puis ils sont là, j'espère que je vais gagner. Puis des fois, ben ça arrive qu'il y en a qui gagnent.
Ah oui, il y en a qui gagnent, parce qu'il y a quelqu'un qui va gagner à un moment donné.
C'est ça. Mais les probabilités, c'est ça qui me gosse, ça me tape sur les nerfs, parce que je me dis...
Il y en a une chance.
C'est ça, il y en a une chance sur 1 million que je me fasse poigner par un éclair, mais... Cette chance-là,
elle là, cette chance-là, c'est toujours aujourd'hui. C'est-tu dommage?
Ah, des fois, il faut que je me calme, parce que c'est comme le monde me dit, les avions, ben ouais, mais t'as une chance sur 80 de pogner un accident quand tu prends ton auto, puis l'avion, t'as une chance sur 1 million. Je suis comme, ouais, mais il y a des avions qui se sont déjà écrasés. Dans... tu sais, comme, tant qu'à moi, on aurait dû jamais avoir aucun avion qui s'écrase. Là, j'aurais pu genre ne pas avoir peur des avions.
Ouais, ben c'est ça. Ça reste toujours. Il y a toujours une possibilité. Il y a une possibilité que mes freins lâchent sur ma voiture.
Ben,
il y a une possibilité qu'une voiture perde le contrôle parce que sa direction ne fonctionne plus et qu'il fonce dans ma maison. Il y en a plein. Puis si on commence à penser comme ça, à un moment donné, on s'enferme dans le garde-robe puis on sortira plus jamais. Habituellement, notre cerveau est fait justement pour mettre un stop à ce genre de pensée. C'est là, puis arrêter là, le train qui, à un moment donné, ça va trop vite. Là. Le train va à une grande vitesse, puis on s'imagine tous les désastres, tous les scénarios possibles. Habituellement, notre cerveau est fait pour l'arrêter. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas sur ce mécanisme-là et qui vivent dans la peur au quotidien.
C'est
comme
vrai.
Ça. À cause des. On parle du monsieur, de la madame avec les deux éclairs. Le monsieur qui a été capté par la tornade, déjà de se faire aspirer par une tornade, les chances sont minimes. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, de se faire cracher par la tornade et d'en survivre, les chances sont à peu près nulles, mais sont pas nulles parce que lui, il l'a fait.
C'est ça.
C'est peut-être le seul humain qui a survécu à ça, mais lui, il l'a fait.
Exactement.
Il y a quand même une chance. Avec les probabilités, ça finit jamais. Là.
Ben, c'est ça.
C'est incroyable.
C'est fou. Jason, écoute, je pense que t'en as d'autres, tes légendes.
Ah, j'en ai plein. Bon, j'en ai plein. C'est le genre d'affaires qui me fait triper. Puis c'est des petites histoires le fun à raconter. En plus.
Ben oui, donc... Ça va être, on va clairement refaire cet épisode-là.
Ah, ça me ferait grand plaisir.
Le prochain épisode, ça va être les loups-garous.
Yes.
Là, je promets. C'est Aziz, son
nom? Aziz, oui, qui Aziz. Attend avec impatience. Alors, l'épisode sur les loups-garous.
Je vais me mettre sur mon dossier, là. Je vais préparer.
Excellent.
Ça. Et on reviendra avec un autre épisode de Légende urbaine. C'était très cool.
Ben, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ça change le rythme un petit peu.
Oui.
Des gros dossiers de fond là, pendant une heure de temps. Là. Ça a été plusieurs petits dossiers comme ça. En même temps, ça pratique un peu le muscle du compteur.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était excellent. Merci beaucoup, Jason Lévesque.
Ça me fait plaisir, M. Tristan. J'invite les gens à aller aimer notre page Facebook. Vous êtes de nombreux. Hein. On en a 3, 4, 5 de plus à tous les jours.
Ben
comme
oui,
c'est là. Ça va un rythme très rapide. On approche bientôt, je pense, le 30 000 fans sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Alors, c'est énorme. Et ça continue. Alors, lâchez pas. Parlez-en aux amis. Partagez. Les liens sont faciles à partager. Et c'est du contenu gratuit en plus.
Ben
on travaille fort. Puis c'est gratis.
Ben, c'était exactement ça. Non, c'est cool. Merci.
On a tellement de fun à faire ça.
Ben oui, vraiment, vraiment. Merci encore à vous de nous suivre et prenez soin de vous.
Absolument. Faites attention. Bye bye tout le
monde. Salut.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de Message d'intérêt public.
En cette période de risque de contamination du coronavirus, nous vous suggérons très fortement de limiter les contacts physiques entre les personnes. Nous vous suggérons de remplacer la traditionnelle poignée de main, le câlin ou le bisou par un petit coup de coude, un vigoureux coup de pied dans le tibia ou un bon coup de bottine dans la fourche. En plus d'augmenter la sécurité et de freiner la propagation du virus, ces mesures rendront votre arrivée au bureau beaucoup plus divertissante.